Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse approfondie. Je suis ravie de plonger aujourd'hui dans le chapitre 5 des directives TSIP pour Kids, un texte vraiment pensé pour les éducateurs et les parents.
Ouais, bonjour. C'est un document essentiel.
Absolument. Et notre mission pour ce décryptage aujourd'hui, c'est de comprendre les mécanismes un peu cachés derrière les conflits qui impliquent des jeunes traumatisés. Parce que le but, c'est de découvrir comment transformer ça en opportunité de guérison.
Parce qu'on le sait, un simple bruit de chaise qui tombe, et paf, un ado explose de colère. Les gens autour perçoivent souvent ça comme de la rébellion pure, quoi.
Bah oui, un manque de respect total en apparence, alors que le conflit, c'est pas juste un simple problème de comportement, c'est un vrai symptôme de détresse. Donc, ok, décortiquons tout ça. Que se passe-t-il vraiment sous la surface de ces crises genre ultra soudaines?
Eh bien, sous la surface, le système nerveux de l'enfant est tout simplement bloqué en état d'alerte maximale. Les traumatismes du passé dérèglent complètement son évaluation du danger.
Ah, donc ça active de façon chronique des réponses archaïques, c'est ça, le fameux combat, fuite ou paralysie?
Exactement. Et ce qui est fascinant ici, c'est de voir comment les déclencheurs de ces réactions évoluent avec l'âge.
C'est vrai, les documents montrent qu'un simple bruit inattendu suffit pour un enfant maternel, mais après ça change.
Ouais, pour les écoliers, le déclencheur devient beaucoup plus sensoriel, genre une odeur très spécifique qui va ramener un mauvais souvenir, un flashback.
Et chez les ados? Alors là, une simple critique sur les réseaux sociaux ou un sentiment d'isolement, c'est perçu par leur cerveau comme une véritable menace pour leur vie.
Totalement. Le cerveau perd la capacité de faire la différence entre un vrai danger passé et une frustration sociale au présent.
Du coup, c'est un peu comme une sorte d'allergie invisible. Quelqu'un entre dans une pièce inoffensive pour la majorité des gens, mais son système immunitaire surréagit à une particule hyper précise.
C'est une super analogie, ouais. Le corps peut même somatiser avec des douleurs chroniques.
Mais du coup, comment on fait pour repérer un allergène psychologique qu'on ne voit même pas?
Bah, il faut utiliser des outils de dépistage bien spécifiques. Le texte mentionne le BTQ, le GPS ou l'AC.
Des acronymes un peu barbares, quoi.
C'est ça. Mais au-delà du jargon médical, ce sont des questionnaires conçus pour mesurer le niveau d'adversité vécu dans l'enfance. Ça permet d'identifier les traumatismes subis et, surtout, d'adapter l'environnement avant que la crise ne survienne.
Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Quand la prévention échoue, quand la tempête éclate, comment on réagit? Les sources insistent sur le fait de valider l'émotion, sans pour autant excuser la destruction.
Ouais, valider ne veut pas dire tout permettre.
Voilà. Le texte donne l'exemple parfait, proposer à l'enfant de frapper un oreiller au lieu de casser une chaise.
C'est très pragmatique. Et si l'on relie cela à une perspective plus large, l'objectif n'est pas juste d'arrêter la casse, c'est de faire passer le jeune d'une dérégulation émotionnelle, ce qu'ils appellent ED, à un état de régulation, ER.
Et ça passe par l'ancrage, les fameuses techniques physiques avant toute discussion.
Exactement. Se concentrer brièvement sur la sensation de gravité.
Sentir son poids vers le sol.
Ouais, ou explorer les cinq sens, se focaliser sur la respiration.
Pourquoi le simple fait de, je sais pas, sentir ses pieds sur le sol, ça arrête une crise de rage?
Physiologiquement, ça force le cerveau à quitter l'amygdale.
La zone de la peur.
C'est ça, la zone qui gère l'instinct de survie. Et engager les sens réactive le cortex préfrontal, qui est responsable de la logique. C'est littéralement un bouton de réinitialisation physiologique.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie une fois que le calme est revenu et qu'il faut régler le fameux désaccord initial?
Là, le document impose des règles strictes pour une dispute équitable. D'abord, on utilise des déclarations en jeu pour exprimer ses ressentis.
Ok.
Et surtout, on bannit totalement les mots absolutistes, genre « toujours » ou « jamais ».
Ah oui, mais des mots comme ça fusent tout le temps dans les conflits ordinaires. Pourquoi sont-ils si dangereux ici?
Parce que pour un cerveau traumatisé, entendre un truc comme « tu fais toujours ça », eh bien ça crée un sentiment de fatalité insurmontable. Ça réactive la sensation d'impuissance liée au trauma initial.
La personne se sent prise au piège, quoi. Le texte suggère aussi d'utiliser un processus en cercle restauratif, traiter un seul problème à la fois, sans chercher de coupable. Mais attendez, il y a un truc qui m'a frappé.
La limite de temps.
Oui. Limiter impérativement la conversation à 30 minutes. Ça semble impossible. Si le problème n'est pas réglé, couper court ne va pas juste frustrer l'enfant encore plus.
On pourrait le penser, ouais, mais dépasser ce délai entraîne inévitablement un épuisement cognitif. Le cortex préfrontal fatigue très vite face à des émotions intenses.
Donc, imposer une pause garantit que l'échange reste constructif.
Voilà, ça prévient une nouvelle dérégulation.
En résumé, la patience, l'écoute active et un environnement super structuré, c'est ce qui permet de restaurer le sentiment de contrôle qui a été affaibli par le traumatisme.
C'est le cœur du processus. Et cela soulève une question importante pour conclure.
Je vous écoute.
Si des stratégies comme la limite stricte de 30 minutes ou la verbalisation sans jugement sont si efficaces pour désamorcer les crises chez des jeunes traumatisés, ne devrions-nous pas appliquer ces mêmes règles à tous les conflits entre adultes ?
Ah oui !
Que ce soit dans le monde de l'entreprise ou même en politique, ça changerait la donne, non ?
Une excellente piste de réflexion à méditer pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir accompagné pour ce décryptage passionnant.
Merci, c'était un vrai plaisir.